Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver en direct pour cette émission, émission d'une grande richesse musicale. Bonjour Eric.
Bonjour Didier.
Nous allons donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, recevoir Zuzana Ferjancikova qui nous parle de Rotterdam peut-être.
Nous avons tellement plaisir.
De Harlem, bonjour.
De Harlem, bonjour. Oui. Bonjour Zuzana. Avec grand
Zuzana.
Plaisir pour une actualité musicale riche là aussi, un concert et un disque futur dans quelques jours, un disque qui sortira. Après une séquence donc consacrée à l'orgue en quelque sorte et à Zuzana, nous consacrerons un petit moment. Ça s'est passé un 14 avril et figurez-vous, alors dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de choses qui sont passées un 14 avril, mais j'ai noté aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 115e anniversaire, je crois, ou le 116e, 115e, 114 ans. 114e anniversaire du naufrage du Titanic. Or, le naufrage du Titanic, nous aborderons cette question sur le point de vue musical, en quelque sorte, puisqu'il y avait des musiciens embarqués sur ces paquebots de luxe. Et il y a toute une histoire. Et on peut presque dire que si cette histoire a bouleversé le monde, c'est naturellement pour le nombre énorme de victimes, mais c'est aussi parce que l'aspect dans les quelques jours après le naufrage, dès que les rescapés sont arrivés à New York, on a immédiatement parlé et magnifié en quelque sorte l'action des musiciens qui ont joué jusqu'à la dernière extrémité, jusqu'à ce que le navire s'enfonce dans les flots. Et il y a toute une histoire, il y a même des polémiques, naturellement, comme d'habitude, qui se montent là-dessus. Donc nous parlerons de cela. Et puis Mélisande Chauveau, dans la séquence « Raconte-moi la musique », nous racontera la jeunesse de Paganini. Alors, Eric, traditionnellement, quelques annonces de concerts, car rappelons que la musique se vit d'abord au concert, et par conséquent, il faut visiter
tout,
les musiciens.
Tout à fait. Alors, le premier et important concert de samedi 18, c'est Zuzana qui va nous en parler, bien sûr. Et je passe, on l'aborde dans quelques instants. Je voudrais tout simplement vous signaler les 10 prochains concerts des dimanches musicaux de la Madeleine, de dimanche 3 mai, donc dans 3 semaines, à 16h en l'église de la Madeleine, le 3 mai 2026 à 16h, la paroisse de la Madeleine recevra les chœurs de la cathédrale de Winchester. Nous n'avons pas encore le programme, il va arriver donc le 3 mai. Et le dimanche suivant, le 10 mai 2026 à 16h, ce sera un récital d'orgue qui sera donné par une organiste slovaque qui s'appelle Monika Melková. Vous connaissez peut-être Zuzana.
Oui, absolument.
Voilà, donc
oui.
Ce sera également donc une organiste slovaque qui interprétera des œuvres de Louis Marchand, Bach, Ravel et Melková également. Voilà. Et puis donc ceci dans le cadre des dimanches musicaux. Et puis, je vous rappelle les concerts de l'association Musique et Patrimoine, musique de chambre et récital de piano aux chandelles en l'église Saint-Éphrem, et ainsi que l'orchestre Les Violons de France et la soprano Cécile Bénard en l'église de la Madeleine. Donc, concerts très très réguliers, venez aux concerts, ce sont des concerts de grande qualité par des grands professionnels. Profitons de ces beaux moments qui nous réchauffent le cœur.
Dans des lieux superbes et des acoustiques magnifiques.
Voilà. Mais nous allons parler dans quelques instants d'un superbe concert qui se déroulera samedi prochain en la cathédrale de Lille.
Alors, Zuzana, nous sommes ravis de vous retrouver.
Mais Zuzana,
c'est très ravi.
Vous êtes l'organiste titulaire de Radio Courtoisie.
Mais merci, ça me fait vraiment plaisir, c'est extraordinaire voilà. D'avoir un titre comme ça.
Je rappelle aux auditeurs le fabuleux concert que vous aviez donné à Notre-Dame au mois de décembre, je crois,
En janvier, 13 janvier.
Voilà. Et les auditeurs qui avaient eu la perspicacité, si je puis dire, de venir assister à ce concert, Notre-Dame était bien sûr était pleine, ont été absolument enthousiastes par vos interprétations, à la fois des œuvres classiques et puis d'une œuvre de votre composition. Est-ce cette œuvre que nous retrouverons sur le disque que vous allez produire dans quelques jours?
Non, malheureusement pas. Ce sont
pas encore.
Uniquement des œuvres de Jean Guillou.
Oui. Ah oui.
Alors voilà. Alors il faut rappeler également, on en avait longuement discuté la dernière fois, que votre maître, c'est Jean Guillou, donc grand organiste français, un peu oublié sur les ondes aujourd'hui, malheureusement. Mais Jean Guillou qui a fait une carrière absolument prestigieuse. Et chère Tsuzana, vous suivez joyeusement, si je puis dire, les traces de Jean Guillou, puisque vous vous produisez un peu partout, là où sont, les orgues sont belles et où elles demandent à être bien jouées.
Dans l'Europe et le monde entier.
Oui, c'est ça. Je dois dire quand même, le mois de mars, j'ai bien traversé toute l'Europe, je pense.
Oui.
Helsinki jusqu'à Dortmund, Duisburg en Allemagne, partout. Mais je suis quand même très heureuse d'avoir cette chance de me produire partout. Et c'est quand même extraordinaire. Je suis très reconnaissante.
Alors, un mot sur l'orgue de Lille que vous allez jouer samedi prochain, donc à 18h, dans un concert à la cathédrale de Lille. Un mot sur l'orgue et un mot sur le programme, bien sûr.
Oui, donc il s'agit d'un instrument absolument exceptionnel, parce qu'en fait, si vous le savez bien, c'était l'ancien orgue de l'auditorium Oliver Messiaen, donc le fameux studio 104 de Radio France. Oui, donc évidemment, vous pouvez imaginer, c'est vraiment touchant de retrouver un instrument comme ça, associé à des organistes tels que Marcel Dupré, Olivier Messiaen, Langlais, même Gaston Litès, qui a, de toute façon, il a inauguré cet orgue en 1967, je crois.
Oui.
Donc, c'est quand même extraordinaire. Et c'était l'idée de Jean Guillou, justement, que l'orgue sera transporté à Lille, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Donc, ils ont fait ce projet avec un facteur allemand, Philippe Kleiss, qui est un bon ami de Jean Guillou, qui est un bon ami de Jean Guillou. Et c'est un orgue absolument incroyable. Comme Jean Guillou, il a dit, bon, à la Radio France, c'était comme ci, comme ça. Mais à la cathédrale de Lille, c'est devenu un Stradivarius. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et bon, même le buffet, c'est magnifique à voir parce que vous avez un buffet extrêmement moderne, en trois niveaux, c'est fantastique. Donc, c'est vrai que je me réjouis beaucoup de jouer là-bas. Et en plus, maintenant, il y a un orgue aussi extraordinaire, un orgue Cavaillé-Coll, au même endroit. Donc, en face de ce buffet moderne, il y a un Cavaillé-Coll, récemment restauré, qui a été offert ex photo par une famille Bayeul d'Avancourt à Lille. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je veux commencer ce concert donc à l'instrument de Cavaillé-Coll. Après, je veux changer à l'orgue de González Kleiss Guillou, grand orgue de la cathédrale. Alors. Donc, ça va être extraordinaire. Oui.
Très bien. Alors, musique, on vous écoute dans un programme que vous nous avez envoyé, d'ailleurs. La technique permet toutes sortes de choses maintenant.
Et ça, je vous propose... Merci Benoît. Ouais.
Voilà, merci Benoît.
Est formidable. Oui,
et je vous propose de vous entendre dans la fanfare que vous nous proposez. Un mot sur cette œuvre.
Il s'agit d'une composition, une des dernières œuvres de Jean Guillou. Bien entendu, c'est la composition Macbeth, donc Macbeth de Shakespeare.
Oui.
Il s'agit de la musique de scène, donc il faut imaginer vraiment ce qui se passe dans Macbeth. Et c'est la fanfare, donc c'est une pièce assez rarement jouée ou presque pas jouée. Donc je viens d'enregistrer l'intégrale de Macbeth pour la première fois, donc c'est la première mondiale.
Et alors, là nous l'entendons dans votre interprétation, et je vous répète, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on le retrouvera sur votre prochain disque?
Oui, ça.
Magnifique.
Oui. Macbeth, oui. Mais il s'agit d'une composition de Jean Guillou,
d'accord,
bien entendu. Donc, alors, une de ses dernières œuvres, oui.
Écoutons cette fanfare de Jean Guillou. C'est une pièce courte, mais où l'on entend le cœur de Jean Guillou battre.
Oui, exactement. Oui, c'est ça.
Alors, lorsque vous allez à Lille, quelles sont les œuvres que vous allez interpréter?
Donc, je vais commencer, donc, comme j'ai dit, à l'Orchestre de Cavaillé-Coll,
oui,
où je vais interpréter la Fantaisie et Fugue sur le nom de Bach, de Franz Liszt,
ah, oui,
dans la version syncrétique de Jean Guillou, bien évidemment, parce que c'est une vous connaissez la version, c'est quand même extraordinaire,
oui.
hein. C'est une version où il prend la partition piano
Voilà.
avec deux versions pour orgue et il en fait une troisième version absolument formidable. Vous avez tous les éléments de la version piano combinés avec les éléments des deux versions pour orgue, donc c'est extraordinaire. Après, je veux changer donc au Grand Orgue de la cathédrale et là, je veux jouer l'œuvre de Mozart que j'aime beaucoup, l'Adagio et Fugue en ut mineur. Où je vous ai envoyé, je crois, la fugue.
Non,
C'est extraordinaire, c'est
on
vraiment.
l'entend dans 3 minutes. Hein.
C'est la fugue la plus difficile de ma vie. Je vous avoue que c'est vraiment extrêmement virtuose. C'est tellement difficile. Mais c'est fantastique. C'est une œuvre de Mozart, une de mes œuvres préférées de Mozart. Très dramatique, chromatique. Vous allez attendre. C'est une fugue extraordinaire. Après, je veux jouer une œuvre de Bach, pièce d'orgue, donc la fantaisie. Et après, quelques œuvres de Jean Guillou aussi pour fêter, en fait, son 86e anniversaire, ce qui est exactement le 18 avril, donc samedi prochain.
Voilà, oui. C'est 80, un anniversaire,
96 ans, oui, il aurait 96
ans,
il est né en 1930,
oui,
oui, oui, tout à fait,
oui.
Tout à fait.
Eh bien, écoutez, écoutons cet Adagio et Fugue.
Et vous allez terminer avec une transcription que vous avez faite également, Susanna.
Oui, exactement. C'est la transcription de la deuxième légende de Franz Liszt.
Ah, voilà.
Qui est enregistrée sur mon dernier disque, Passion, que vous avez, je crois
oui,
que vous,
oui, tout à fait.
Vous l'avez déjà, oui. Donc, c'est une de mes œuvres préférées de Liszt parce que c'est une composition. Comment dirais-je, très mystérieuse, aussi en même temps plein d'espoir, de lumière. C'est une légende de Saint-François, de Paul marchant sur le flot. Donc c'est quelque chose qui est très inspirant, très touchant pour moi, et cette légende d'un saint qui est capable de marcher sur le flot comme Christ. C'est extrêmement... oui, c'est fantastique de jouer cette pièce.
C'est vrai.
Alors là, je vous propose d'entendre la fugue de Mozart, dont vous nous parliez il y a un instant, oui. Extrait de l'Adagio et Fugue de Mozart, avec cette transcription que vous avez réalisée.
Non, c'est Jean Guillou.
C'est Jean Guillou également qui a réalisé cette transcription. Oui. Voilà. Écoutons Susanna Ferjancikova dans cette fugue de Mozart.
Sur le grand orgue de Lille. chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la musique et de la culture dirigé par Didier Rochard, qui reçoit aujourd'hui Madame Susanna Ferchensikova pour évoquer son prochain disque et le récital qu'elle donnera samedi 18 avril, samedi prochain à 18h30 en la cathédrale de Lille. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter cette émission ce soir à 24h et demain à 14h.
Alors, un mot, chère Susanna, pour cette œuvre qui, effectivement, prodigieuse. Est tout à fait prodigieuse.
Oui, bon, quelle musique, n'est-ce pas?
C'est l'épreuve reine, absolument, de la composition musicale, la fugue, quand elle est ratée, on le sait, mais quand elle est réussie, on le sait aussi.
Ah, oui.
C'est vraiment, c'est flamboyant. Et cette transcription de Jean Guillou est absolument magnifique. Cette fugue est jouée habituellement par un orchestre ou pour un quatuor à cordes, en tout cas.
Quatuor à cordes, exactement.
Faire ces quatre parties du quatuor à cordes réduit avec vos 10 doigts et
pédalier.
Et le pédalier.
Pédalier, en plus. Enfin, c'est la chance, quand même.
C'est extraordinaire. Et dans cette interprétation... Oui, on entend très distinctement le thème de la fugue qui revient, enfin, etc. C'est une très, très belle interprétation. Hein.
C'est un chef d'œuvre, vraiment, de la façon comment Mozart a fait vraiment travailler déjà toute la chromatique qu'on on raconte dans la musique beaucoup plus tard. C'est vraiment quelque chose de totalement visionnaire. Je peux pas même exprimer comment j'aime cette œuvre, parce que c'est un chef d'œuvre extraordinaire. Vous trouvez toute la souffrance et toute l'humanité dedans, aussi dans l'adagio, le fameux adagio qui a été ajouté après, on ne sait pas pourquoi, mais cet adagio, c'est vraiment d'une poésie extrême et la fugue tellement dramatique. Mais vous avez quoi à faire, je vous dis, dans la pédale, il y a des passages difficiles avec toutes les trilles, comme ça, les croisements de toutes les voix, c'est affreusement difficile, mais j'adore de jouer cette pièce parce que c'est tellement touchant, on a l'impression que tout Liszt, Wagner, tout est déjà dedans, dans la chromatique musicale, le langage musical, l'harmonie, tellement déjà développée d'une telle façon que... On ne peut qu'admirer Mozart, c'est un génie. Ouais.
Alors, quel est le travail des jeux que vous utilisez pour cette pièce? Parce qu'on a le sentiment d'une cohérence totale dans l'interprétation. Est-ce que vous avez gardé la même combinaison, si l'on peut dire?
Il faut dire que j'ai passé... pour cette fugue, je pense plusieurs heures à retravailler toutes les combinaisons possibles parce que je cherchais quand même d'évoquer d'abord le quatuor à cordes dans la version originale, mais quand même de faire un crescendo immense, comme si tout l'orchestre du monde aurait joué cette œuvre. Donc j'ai beaucoup travaillé et je dois dire un grand merci vraiment aux organistes de la cathédrale de Lille, d'abord Guylain Leroy, un organiste français que j'apprécie beaucoup, qui est le titulaire de cet orchestre, qui a passé des nuits avec nous pendant cet enregistrement, parce que l'orchestre à Lille, évidemment, l'état n'est pas absolument parfait. Donc, il a passé des nuits dans l'orgue pour m'aider. Si jamais quelque chose t'arrive, tu sais, je suis dedans, je répare en toute vitesse. Il a été extraordinaire. Aussi, l'organiste co-titulaire, Denis Conté, ils sont vraiment magnifiques. Donc, j'étais vraiment heureuse de pouvoir travailler comme ça, parce que même pour les registrations, tout ça, Guylain était là pour voir si ça sonne bien dans la cathédrale. Donc, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir des collègues français comme ça, parce que, donc, grand merci à Guylain Leroy et Denis Conté de tout mon corps.
Magnifique. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps d'entendre l'adagio et le rondo, malheureusement, de Mozart, que vous avez, qui est sur votre prochain disque.
Oui, mais c'est un autre orgue. Bien évidemment, c'est l'orgue de Bruxelles, Chant d'oiseau, qui a été construit par Jean Guillou. Mais là, on devrait changer l'orgue. Mais si vous voulez, on peut aussi écouter la suite. C'est le Macbeth, le fin de Macbeth.
La marche,
là,
oui.
La marche
Ça,
de
on va
Macbeth,
l'entendre, bien
où
sûr.
moi, personnellement, je vois, vous connaissez Macbeth un peu, donc à la fin, tout est fou, donc Macbeth devient fou, bien sûr, et il y a des arbres qui s'approchent de lui, vous savez, comme des
Oui,
soldats.
qui est...
Donc, je vois ça dans la musique, mais je vous laisse libre. Choisir qu'est-ce que vous voyez, mais c'est le grand final parce qu'il faut dire que la composition Macbeth, c'est une des dernières pièces de Jean Guillou, peut-être même la dernière, si on peut le dire, qui dure 30 minutes. Donc, c'est une grande œuvre. Et la Marcia, donc le marche là qu'on va atteindre, ce sont les dernières 4 minutes de la composition. C'est la grande finale, quoi.
Alors, un mot simplement sur votre... là, on a bien compris, la prochaine sortie, la sortie prochaine de votre disque, c'est samedi, je crois, à l'occasion de ce
Après, le
concert.
disque, il est déjà sorti, mais on
D'accord?
va faire une présentation.
Très
Donc,
bien. D'accord.
on va présenter le disque à Lille. Oui.
Et quand aura-t-on la joie de vous retrouver? Alors, Paris n'est pas la quintessence de la musique en France, mais quand revenez-vous à Paris, quand même?
Bon, je reviens en fait toutes les 2 semaines parce que je passe par Paris pour
Oui.
enseigner à Notre-Dame. Mais bon, je vais essayer de planifier cela avec Eric ou avec vous deux.
Oui,
Mais
on
de toute
va.
façon, j'ai la grande joie de jouer à Saint-Sulpice novembre prochain. Donc, 7
Ah, très
novembre,
bien.
le 20
Oui,
novembre, la
effectivement.
fête de Sainte-Cécile. Oui.
Magnifique
Oui,
pour fêter la
nous
patronne des
avons
musiciens.
déjà
Oui,
parlé
c'est
de
ça.
votre concert à Saint-Sulpice, puisque ça va être une journée extraordinaire. Il y aura d'abord à Sainte-Eugène-Sainte-Cécile la messe de Sainte-Cécile, la fête de Sainte-Cécile, avec orchestre, avec les orgues, avec les chœurs. Et après cette messe, eh bien, nous nous dirigerons vers Saint-Sulpice pour écouter Susanna. Vraiment,
Ah ben,
Sainte-Cécile ne
extraordinaire,
pouvait pas être mieux fêtée cette année 2026. Merci Susanna, c'est merveilleux.
génial, merci à vous.
Alors, merci pour cette intervention de Arnhem, donc Susanna, et puis les Lillois ont bien de la chance de pouvoir vous entendre samedi prochain, donc le 18, à 18h30 en la cathédrale pour un récital complet de Zsuzsa Ferdjancikova. Et puis nous nous quittons, si vous le voulez bien, avec cette fameuse marche dont on a parlé il y a un instant.
Alors donc, Susanna,
Merci beaucoup.
nous prenons date pour pouvoir que vous reveniez jouer les orgues de Radio Courtoisie,
Avec grand plaisir. Merci Eric, merci Lydie.
qui sont tenues par Benoît actuellement. La console est devant Benoît.
En tout cas, merci Benoît, chers collègues.
À bientôt,
Merci
Susanna.
Susanna. À
Merci.
bientôt. Au revoir,
Au
Susanna.
revoir.
Et nous entendons donc cette marche de Jean Guillou. On reconnaît la force, je disais la patte de Jean Guillou dans cette composition de La Marche.
Oui.
Donc, il avait cet immense talent de révéler absolument l'instrument dans toute sa splendeur à travers ses compositions, à travers ses transpositions, bien sûr, mais à travers
ses improvisations également.
Voilà. Enfin,
oui, absolument. C'est un grand monsieur de l'orgue qui...
Complètement.
Que nous avons eu la chance de connaître.
Ah ben voilà. Et c'est le miracle de la musique. L'enregistrement nous permet de continuer à entendre et à inspirer les organistes d'aujourd'hui. Parce que
Susanna
est une disciple, absolument. Plus qu'une élève encore, mais une véritable disciple de Jean Guillou. Alors, chers auditeurs, nous sommes à la mi-temps de notre émission et je vous avais annoncé tout à l'heure que nous parlerions du 14 avril. Et c'est une commémoration, 14 avril 1912, donc, puisque le Titanic va s'abîmer dans les flots de l'Atlantique le 14 avril, dans la nuit du 14 au 15. Il va couler vers, 2h30 du matin, enfin peu importe, faisant malgré tout 1517 victimes. Il y aura 711, je crois, de mémoire, 711 rescapés. Et c'est cette partie qui nous intéresse dans ce libre journal des musiciens, tout simplement parce que l'émotion qu'a créée évidemment cette catastrophe dont on a parlé dans le monde entier, évidemment, il faut se remémorer ce qu'était le Titanic. C'est un navire qui était le plus grand du monde à l'époque, certainement le plus luxueux, qui essayait d'obtenir ce qu'on appelait le cordon bleu, naturellement, pour ce qui peut peut-être expliquer d'ailleurs qu'il n'a pas voulu détourner sa route pour essayer de gagner quelques heures sur la traversée de l'Atlantique. Ça manquait à son palmarès, si on peut dire.
C'était son premier voyage. Oui.
De Southampton, en passant par Cherbourg. On oublie qu'il est parti de Cherbourg, finalement, pour rejoindre New York, et il ne rejoindra naturellement jamais New York. Mais alors, ce qui est particulier, c'est que c'est un des premiers bateaux sur lesquels on a embarqué des musiciens professionnels. Alors, je ne rentre pas dans la polémique d'ailleurs qui a eu lieu parce que c'est une agence de musiciens, une agence artistique qui fournissait à la compagnie des musiciens, c'est-à-dire que les musiciens n'étaient pas considérés, n'intégraient pas l'équipage.
Ouais, c'est ça.
Alors là, il y avait deux groupes de musiciens, d'ailleurs c'était assez amusant, un trio et un quintet. Dans une composition d'ailleurs assez particulière, il y a des doutes sur le fait qu'il y ait eu ou non un altiste. A priori, dans un quatuor à cordes, il y a forcément un altiste.
Il me semble, oui.
Mais ça n'a pas été précisé, il n'y a aucune archive qui permette de dire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quel répertoire ces musiciens allaient interpréter. Alors, il y avait plusieurs endroits. Ce qui est très particulier, c'est que sur ce Titanic, les musiciens jouaient aussi bien pour les premières classes, ça on s'y attend, dans les grands salons des premières classes, au pied de l'escalier monumental, etc. Mais ils jouaient aussi pour les deuxièmes classes, qui étaient très certainement, ces deuxièmes classes du Titanic étaient déjà la belle classe des grands privilégiés sur les autres navires à l'époque. C'est-à-dire que le Titanic avait vraiment apporter pour le confort des passagers
un luxe
tout à fait extraordinaire. Et il ne faut pas oublier, ça c'est assez particulier, je l'ai redécouvert d'ailleurs en préparant cette émission, qu'à l'origine, le Titanic n'était que... la mission du Titanic, c'était le transport du courrier. Et d'ailleurs...
C'était la mission première des transatlantiques, absolument.
Voilà, et d'ailleurs, c'est dans le préfixe de son nom, c'est le Titanic, mais c'est bien le RMS, le Royal Mail Steamer, donc c'est bien le navire à vapeur de la Poste Royale, et il était chargé de 168 200 kilos de lettres.
Ah oui,
c'est ahurissant. 3364 sacs postaux d'environ 50 kilos chacun. Et en fait, on embarquait des passagers, ils étaient 2200 d'ailleurs dans cette croisière, si l'on peut dire. C'est assez extraordinaire. Bien. Alors maintenant, il y a toute cette polémique, si l'on peut dire, pour savoir ce qu'ont joué les musiciens, car c'est ce qui a touché le monde, je crois, Et la plupart des monuments qui existent en hommage aux victimes de cette catastrophe, eh bien, ce sont des monuments en hommage aux musiciens, les 8 musiciens du Titanic, qui sont tous morts dans la, de noyade, naturellement, avec des musiciens professionnels de, d'assez grand renom, d'ailleurs, puisqu'ils avaient été choisis spécialement. C'était des musiciens qui avaient l'habitude d'être embarqués sur des navires, mais là, ils avaient été rassemblés exceptionnellement sur le Titanic pour donner certainement encore davantage d'une qualité artistique aux prestations qu'ils pouvaient faire. Ils jouaient très souvent, paradoxalement par rapport à ce que l'on fait maintenant, ils ne jouaient absolument pas pendant les dîners, pendant les repas, mais par contre, ils jouaient pendant l'été, pendant les, dans les salons, etc. Et le répertoire qu'on leur attribue, parce qu'il n'y a aucune liste du répertoire, y compris dans cette fameuse agence artistique qui engageait ces musiciens, ils étaient obligés de connaître absolument par cœur les 342 titres musicaux qui étaient imposés, car ils jouaient par cœur. Donc, ils devaient, pour accéder à ce poste, qui était pour le coup assez peu rémunéré, ils vivaient dans des cabines populaires, enfin, etc. Les musiciens n'étaient pas toujours très bien considérés.
Vous savez, l'équipage, si le luxe et le confort sont pour les passagers, et les sacs postaux peut-être, mais les équipages,
j'ai fait quelques croisières musicales, et les musiciens étaient logés au niveau du parking. Nous n'avions pas les effluves salées de l'océan, nous avions les effluves du gasoil, tout simplement, dans les cales. Enfin voilà, alors ce qui est assez intéressant, c'est que, effectivement, la grande légende, si l'on peut dire, sans doute est-ce une légende, c'est que les musiciens. Enfin, ce qui est vrai, c'est que les musiciens ont joué, tous les témoignages se concordent, les musiciens ont joué jusqu'à la dernière extrémité, je pense, jusqu'à ce que le navire, en s'enfonçant dans l'eau, voilà, soit à la verticale, ce qui devait être un peu difficile, en particulier pour le violoncelliste d'ailleurs. Oui. On en parlera parce que c'est un violoncelliste français qui était embarqué. Enfin voilà, donc on pense que la dernière pièce musicale qu'ils ont jouée pour calmer la grande panique des passagers, c'était naturellement « Plus près de toi, mon Dieu ». Nearer my God to thee, et nous l'entendons immédiatement. Voilà, c'est un cantique assez connu, cantique chrétien, qui apparemment aurait été joué jusqu'à la dernière extrémité. Alors, il y a une petite incertitude quand même là-dessus, car le chef d'orchestre, qui était violoniste, on a retrouvé son violon.
Ah oui.
Le violon a été ressorti de l'eau, et il a été vendu d'ailleurs en 2013, je crois, aux enchères, 1 million de livres sterling. Voilà. Mais c'est, apparemment, d'après les experts, c'est le violon de Wallace Hartley, qui était le chef d'orchestre, qui était né le 2 juin 1878 et qui était donc violoniste. Alors, l'incertitude, c'est tout simplement que ce Wallace Hartley avait dit dans ses mémoires, elle avait dit certainement à ses compagnons, que le jour de son enterrement, il souhaiterait que l'on joue cette pièce. Mais en fait, d'après le radio, et le radio est très important, car, sachez-le, chers auditeurs, tous les 15 avril, tous les radios amateurs du monde font 5 minutes de silence sur les ondes en hommage aux radios du Titanic qui a continué, lui, à son poste, alors que le commandant de bord avait dit « Vous êtes dégagé de votre mission, essayez de sauver votre peau ». Eh bien, les radios sont restées à leur place pour envoyer le SOS, le Mayday, SOS jusqu'au bout. Et ils sont morts, naturellement.
Ils sont morts, bien sûr.
Ils sont morts dans ça. Donc ce Wallace Hartley avait manifesté son intention le jour de son enterrement, qui a eu lieu d'ailleurs peu de temps après, naturellement, d'entendre cette œuvre. Par contre, d'après le radio, ça n'est pas cette œuvre-là qui a été jouée jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on peut imaginer que, compte tenu de la panique qui devait avoir envahi, le fait de faire un cantique, ça peut rassurer les gens, mais ça peut aussi, franchement, les paniquer encore davantage.
Je pense.
Et en fait, il s'agirait plutôt d'une pièce automne. Alors, on a dit pendant un moment que c'était un cantique, et puis des musicologues ont recherché ce qui était joué sur ce bateau. Et en fait, ce serait plutôt une pièce qui s'appelle « Songe d'automne » de Archibald Joyce, qui aurait été joué, couramment sur le bateau pendant toutes les soirées, etc. Soirées, et que les 8 musiciens qui se sont regroupés pour la première fois sur ce navire au moment de couler. Parce qu'avant, ils jouaient en 2 groupes séparés, un trio et un quintet. Et là, pour la circonstance, si je puis dire, dramatique, eh bien, ils se sont réunis et près du gymnase, paraît-il, etc. Peu importe. Et puis, sans doute à l'extérieur du bateau, au moment où le bateau s'enfonce dans les flots, on pense qu'ils auraient plutôt interprété « Songe d'automne » de Archibald Joyce, que nous écoutons à l'instant.
Thank you.
Voilà, nous écoutions donc cette valse, Songe d'automne, de Archibald Joyce, qui aurait été interprétée très souvent sur le navire pendant sa... Très courte,
oui, parce qu'en fait, il a dû quitter le 11 Cherbourg.
Il est parti le 10 avril, il est parti de Southampton.
Oui.
Et dans la traversée à Cherbourg, ils ont déjà failli heurter un navire, ce qui est assez particulier, parce que certes, il n'y avait pas de radar à ce moment-là, mais il y avait des vigiles, des veilleurs
dans la marine. Oui, oui.
Et par conséquent, c'est assez particulier, mais ça, en un mot, ça... commençait pas très très bien, quoi.
Oui, mais alors vous savez, les postes de manœuvre, enfin, devaient durer extrêmement longtemps.
Bien évidemment.
Il
n'y
avait pas de propulseurs latéraux comme il y a maintenant. Aujourd'hui, un navire de cette importance peut assurer son poste de manœuvre tout seul.
Tout seul, absolument.
Le France avait fait des postes de manœuvre seul,
oui,
justement.
Oui. Alors ça dépendait
lors d'une grève de remorqueurs.
Voilà. Et ça dépendait dans quel port. Habitant Le Havre à cette époque-là, j'ai bien connu le commandant Croisille, qui était le père de la chanteuse.
Oui.
Et qui nous avait. Le petit frère de la famille, en quelque sorte, était dans la classe de mon petit frère. Et nous avions eu l'occasion de monter sur le France, invité par le commandant de bord, ce qui était tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, autre musique. Alors. À la suite de ça, si vous voulez, il y a eu donc cette polémique, si l'on peut dire. Quelle est l'œuvre que les musiciens ont jouée jusqu'au bout? Ce qui est certain, c'est qu'ils ont joué jusqu'au bout. Et puis, naturellement, cette catastrophe, donc, qui a beaucoup choqué le monde entier, a donné lieu à un certain nombre de compositions, à un certain nombre de commémorations, d'ailleurs. Et en particulier, Joseph Bonnet, le compositeur français.
Oui.
1884-1944, Joseph Bonnet a écrit In Memoriam Titanic, donc une pièce, il est né en 1884, on imagine, 1912,
il était dans sa pleine
période de composition.
Prédécesseur de Jean Guillou à Saint-Eustache.
Prédécesseur de Jean Guillou à Saint-Eustache.
Très grand organiste.
Voilà. Excellent compositeur, d'ailleurs, il a beaucoup, mais en particulier... cette pièce In Memoriam Titanic que je vous propose d'entendre à l'instant. In Memorial Titanic, un extrait en tout cas de Joseph Bonnet, Joseph compositeur Bonnet. Français, sur cette tragédie du Titanic. Alors, un mot sur le violoncelliste Roger Bricout, car ce violoncelliste était français. Il avait travaillé au conservatoire de Leeds, il avait travaillé au conservatoire de Paris, et pour, lorsqu'il était en Angleterre, pour, disons, payer ses études, en quelque sorte, il avait trouvé ce moyen d'embarquer donc sur les bateaux, ce qui ne lui a pas porté chance, naturellement, d'autant qu'il a emmené son plus beau violoncelle, naturellement, qui a été perdu dans la catastrophe. Alors, c'est assez particulier, parce que c'était donc le seul musicien français à bord du Titanic. Il était né le 1er juin 1891 à Cône-sur-Loire. Et Cône-sur-Loire lui a rendu hommage, d'ailleurs. Exactement. Donc, Cône-sur-Loire lui a rendu hommage. Il y a maintenant une plaque dans le cimetière qui marque cette aventure. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que, donc, fin 1911, il séjourne à Lille, où il joue dans divers endroits de la ville. Il s'engage ensuite, au début de l'année 1912, à bord du Carpathia de la Cunard. Or, c'est le Carpathia qui va récupérer les survivants. Bon, c'est assez amusant. Et il va être déplacé du Carpathia, précisément, sûr, parce qu'il avait du talent, enfin, etc. Et il a été, c'est Théodore Braillet, en avril, qui, avec lui, seront mutés sur le Titanic.
Voilà. D'accord.
Quand c'est l'heure, c'est l'heure.
Oui,
et
oui,
alors, ce qui est particulier, c'est qu'après sa mort, en l'absence de certificat de décès envoyé par les autorités américaines, il sera déclaré insoumis par l'armée française, et le 4 janvier 1913, considéré comme déserteur.
Ben
car il n'a pas pu rejoindre la mobilisation générale de la Première Guerre mondiale. Eh bien, donc il y aura une enquête, naturellement, il sera recherché par la gendarmerie, et c'est le 1er février 1917 que parviendra à sa famille l'avis de décès. On n'a pas le temps d'évoquer les indemnisations qu'ont reçues, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les musiciens étant salariés sur le navire, la compagnie, il n'y avait pas toutes les assurances, les contrats de travail, enfin, etc. Donc, c'est la compagnie qui a demandé des indemnités. Et en particulier, je crois, 14 livres sterling pour la tenue.
Ah oui.
Parce qu'on leur avait fourni une tenue. Donc, l'agence musicale a réclamé à la famille le remboursement de la tenue qui avait été perdue dans le naufrage. Ça va sans dire. Alors, il faut bien voir que tout ceci, a provoqué une onde de choc. Beaucoup de choses ont été modifiées sur la façon d'équiper les navires techniquement, sur la façon de naviguer, sur la façon de transmettre. Marconi, l'inventeur de la télé-transmission, était à l'arrivée des rescapés du Titanic pour féliciter. Alors, il espérait voir les radios, enfin, etc. Parce que c'est ce qui a permis, c'était la première grande expérience transatlantique, en quelque sorte.
Oui.
Et Marconi a été très, très intéressé de savoir ce qui s'était passé sur le bateau, enfin, etc.
Oui, c'est assez. Bien sûr.
Et donc, depuis, évidemment, ça a légèrement progressé. Alors, lors du lancement de CNN, en 1980, c'est pour vous dire que nous sommes en pleine actualité très contemporaine, Ted Turner, le cofondateur de la chaîne CNN, a promis « Nous ne quitterons pas l'antenne avant la fin du monde et nous la couvrirons en direct ». Voilà, Ted Turner dit « Nous couvrirons la fin du monde en direct. Lorsque la fin du monde surviendra, bien sûr, nous jouerons plus près de toi, mon Dieu, avant de nous retirer ». Voilà. Et Turner commanda à cet effet un enregistrement vidéo de l'hymne interprété par une fanfare militaire qui est diffusé parfois aux journalistes. Effectivement, cette fanfare militaire a interprété cette œuvre en 1993. Elle est sur Internet, d'ailleurs, si vous allez visiter le site de Plus près de toi, mon Dieu, car il y a un site qui permet. Et puis, il y a un compositeur américain qui, entre 1969 et 1972, a composé une œuvre, The Sinking of Titanic, donc le naufrage du Titanic, et cette œuvre a été plusieurs fois interprétée, en particulier pour le centenaire de la catastrophe du Titanic. Ce compositeur s'appelle Gavin Bruyars. Alors, c'est une œuvre tout à fait particulière, c'est une œuvre minimaliste, et en plus, elle se... Elle utilise donc des bandes magnétiques de témoignages de survivants, et elle utilise des systèmes de façon à faire entendre la théorie de Gavin Bruyars, c'est que le son, c'était la théorie de Marconi d'ailleurs, le son se propage, le son finit par s'amoindrir complètement, mais il demeure.
D'accord,
et Marconi rêvait de pouvoir faire ressortir le sermon sur la montagne de Jésus-Christ.
Oui, oui.
Pardon. Son, oui. Parce que sa théorie, c'était que le son ne disparaissait jamais totalement et qu'il y avait quelque part dans l'air, dans l'atmosphère, pardon, la trace donc du son des qui s'était amoindri comme ça.
Donc il faut faire très attention à ce que nous disons, car ça reste pour l'éternité.
N'est-ce pas,
ouais, n'est-ce pas donc,
François Mitterrand croyait dans la mémoire des murs.
Mais il n'avait pas tort, hein, quelque part. Il n'avait pas tort.
Nous n'en dirons pas plus. Nous sortons du cadre de notre émission.
Donc, une phrase, un mot prononcé. Donc, surtout, chers auditeurs, pas de mauvaises pensées vis-à-vis de Radio Courtoisie. Non, que des bonnes choses. Car ce que vous pensez et dites reste pour l'éternité.
Voilà.
Alors, ça nous permettra d'accueillir notre chère Mélisande.
Mais je vous propose, pour nous quitter, d'entendre un extrait de ce Sinking of Titanic. Donc, le naufrage du Titanic de Gavin Bruyars. Voilà, une œuvre très profonde, très méditative sur le naufrage du Titanic. Cette œuvre s'appelle The Sinking of Titanic de Gavin Bryars. C'est une œuvre composée en plusieurs étapes entre 1969 et 1972. Et donc, elle a été jouée très fréquemment. Elle a été donnée d'ailleurs à Paris même, je crois, en 2012 pour l'anniversaire du naufrage. Oui. Le 22 octobre 2012, elle a été donnée au Théâtre de la Ville. D'accord. Par le compositeur lui-même, d'ailleurs, me semble-t-il, et avec une projection des quelques images que l'on a du Titanic. Voilà.
Mais il n'y a pas dans le film. Moi, il me semble que je l'ai entendu.
Alors, non. Dans le film de Cameron, là, le dernier film.
Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans d'autres films sur le Titanic, mais il me semble que j'ai entendu cette œuvre.
Oui. Alors, ce n'est pas impossible parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect cinématographique de la catastrophe du Titanic, mais il y a eu de très, très nombreux films qui ont été produits, plus ou moins véridiques d'ailleurs, compte tenu de ce que l'on savait. Les films les plus véridiques sont ceux qui sont passés après 1985, après en fait la reconstitution du Titanic pour le film d'Hollywood de Cameron, qui a été incontestablement un immense succès, même si il y a certaines licences sur la vérité historique comme d'habitude, mais enfin c'est une œuvre d'auteur, par conséquent il n'y a pas de raison.
Il y a une exposition, je crois, qui va se dérouler à la Villette sur le Titanic. Extrêmement intéressant.
Vous avez parfaitement raison, Eric, et c'est bien de le rappeler, mais je n'ai pas de renseignements particuliers à vous donner à ce sujet-là. Alors, oui, moi aussi, j'ai vu des affiches. Voilà, moi aussi. Tout à fait.
Et ayant pas mal de préoccupations, je n'ai pas recherché de recherche.
Donc, moi aussi, mais voilà. Écoutez, ça s'est passé le 14 avril 1912.
Oh,
voilà.
Mon Dieu.
Et paix à l'âme des 1517 victimes, je crois.
Oui.
Et la dernière survivante est décédée. Elle est décédée le 31 mai 2009. La dernière survivante du naufrage du Titanic, et elle a été donc ses cendres ont été par son mari. Ses cendres ont été jetées dans la mer, selon sa volonté, dans le port de Southampton.
Ah oui.
Voilà, dans le port de Southampton. Très bien, Mélisande, bonjour.
Alors, nous avons ressuscité avec le violon de Paganini aujourd'hui.
Oui, magnifique. Le tri du diable.
Voilà. Alors,
raconte-moi la musique.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Sur moi, tout et n'importe quoi. On raconte ainsi qu'ayant surpris mon rival chez ma maîtresse, je l'ai tué bravement par derrière, au moment où il était hors de combat. D'autres ont prétendu que ma fureur jalouse s'est exercée sur ma maîtresse elle-même, mais ils ne s'accordent pas sur la manière dont j'ai mis fin à ses jours. Les uns veulent que je me sois servi d'un poignard, les autres que j'ai voulu jouir de ses souffrances en l'empoisonnant. Un jour, alors que je me rendais à un dîner, je surpris ses propos. L'habileté de Paganini n'a rien qui doive surprendre. Il la doit au séjour de 8 années qu'il a passé dans un cachot, n'ayant que son violon pour adoucir sa captivité. Il avait été condamné à cette longue détention, vous savez, pour avoir lâchement assassiné un de ses rivaux. Voilà comment se joue la réputation d'un artiste. Parce que les gens enclins à la paresse ne veulent pas comprendre que l'artiste a pu étudier en liberté dans sa chambre aussi bien que sous les verrous. À Vienne, un bruit plus ridicule encore mit à l'épreuve la crédulité de quelques enthousiastes. J'y avais joué les variations, les sorcières, et elles avaient produit quelque effet. Un monsieur affirma qu'il ne trouvait rien qui l'étonnât dans mon jeu, car il avait vu distinctement, pendant que j'exécutais mes variations, le diable près de moi, guidant mon bras et conduisant mon archer. Sa ressemblance frappante avec ma personne démontrait assez mon origine. Il était vêtu de rouge, avec des cornes sur ma tête et la queue entre les jambes. Vous concevez, n'est-ce pas, qu'après une description si minutieuse, il n'y avait pas moyen de douter de la vérité du fait. Aussi, beaucoup de gens furent-ils persuadés qu'ils avaient surpris le secret de ce qu'on appelle mes tours de force. Longtemps, ma tranquillité fut troublée par tous ces bruits que l'on répandait sur mon compte, et je m'acharnais à en démontrer l'absurdité. Hélas, je n'ai jamais pu faire taire la calomnie. Que faire, que faire? Aujourd'hui, je ne vois d'autre chose que de me résigner et de laisser la malignité s'exercer à mes dépens. Ainsi s'exprimait Niccolo Paganini au soir de sa vie tumultueuse et grandiose, où d'aucuns le portèrent tout nu, où d'autres le défigurèrent par une haine dévastatrice et incessante, mais où le musicien cent fois terrassé sut cent fois rebondir. Gênes, 1782. Dans un logis insalubre et sordide, une femme accouche. Alors que dans une indescriptible pagaille, le nouveau-né pousse son premier cri, la jeune mère lance « Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, fais que mon fils soit musicien. » Nous sommes le 27 octobre. Niccolo Paganini vient de naître. Aucun musicien dans cette famille. Le père Antonio est docker sur le port de Gênes. Teresa, la mère, femme très pieuse et totalement illettrée, élève sa nombreuse marmaille. En ces temps, la rougeole fait des ravages parmi les enfants. Alors que l'une des petites sœurs de Niccolo succombe à la maladie, le petit garçon est à son tour contaminé. Il tombe en catalepsie. Les médecins le déclarent mort et l'on s'apprête à l'enterrer. Soudain, au moment de fermer son pauvre cercueil, le bambino sort du coma. La nuit suivante, le sauveur apparut à ma mère, nous dit l'artiste, et lui dit de demander quelque grâce. Elle désira que son fils devint un grand violoniste, ce qui lui fut accordé. en cette fin du XVIIIe siècle, où l'opéra règne en maître et où, en Italie, seuls les chanteurs jouissent d'une certaine considération, les instrumentistes étant relégués au rang de musiciens très subalternes, on a du mal à comprendre pourquoi la sainte femme n'a pas demandé que son enfant devienne un grand ténor. Niccolo ressuscité, Niccolo miraculé est bientôt victime de la scarlatine qui manque à nouveau le tuer. Rougeole et scarlatine laisseront des traces indélébiles et la santé du petit restera toujours précaire. Niccolo a 5 ans. Son père l'initie à la musique, lui apprend la mandoline, puis décide de lui enseigner le violon. Bien qu'il fût passionné de musique, son oreille était absolument anti-musicale, s'amuse Paganini. Cet enseignement sera donc des plus brefs. Le brave homme aura tout de même assez d'oreilles, quoi qu'en dise son fils, pour se rendre compte que les dons du petit sont hors du commun et, se jugeant incompétent, le confiera à un vrai professeur, Giovanni Servetto, qui, après seulement quelques cours, se déclarera lui aussi dépassé par son élève et l'adressera à Francesco Gnecco, compositeur de son état. Gnecco n'est certes pas violoniste, cependant il inculquera au gamin ses premières notions d'écriture. Fasciné, l'enfant découvre la magie de l'harmonie et du contrepoint, et déjà compose sa première œuvre, une sonate pour violon. « Tu dois poursuivre ton chemin, petit, » lui dit un jour le vieux maestro. « Et vois-tu, je ne peux plus rien pour toi. Le violon est ta vie. » Fait ainsi que, sur sa recommandation, Niccolo devient l'élève du très renommé Giacomo Costa. Paganini se souviendra de Gnecco avec tendresse et affirmera « Il est l'un des seuls musiciens qui ait eu une influence sur moi. » 1794. Costa se passionne d'emblée pour son nouvel élève et, émerveillé par ses dons, lui organise son premier concert. Niccolo y interprète ses variations sur la carmagnole. La carmagnole, comme chacun sait, désigne une veste courte portée par les sans-culottes, mais aussi une danse en forme de farandole dont l'air est sur toutes les lèvres en Italie qui, cette année-là, connaît les insurrections républicaines. Le gamin y gagnera une réputation de jacobin dont il aura bien du mal à se défaire. Nous avons retrouvé la critique de ce premier concert dans le journal Les Avvisi. En voici le compte-rendu. Le dimanche 26 mai, en l'église San Filippo Neri, un mélodieux concert fut donné par un très talentueux enfant de 11 ans qui a suscité l'admiration générale. Le marquis Giancarlo Di Negro entend le petit bonhomme et s'entiche littéralement de lui, finançant concert sur concert, il devient son mécène. Les troupes françaises envahissent le territoire de la République. Les Anglais répondent à cette occupation par le blocus du port de Gênes. Le trafic maritime est réduit à néant. Pour ne pas mourir de faim, M. Paganini change de métier et s'improvise joueur et vendeur de mandolines. Ces événements dramatiques n'auront pourtant aucune retombée sur la carrière déjà naissante de l'enfant, le marquis Di Negro, pourvoyant largement à tous les frais qu'exige l'éducation classique et musicale du garçon. Les concerts se succèdent à un rythme effréné et bientôt la consécration arrive. Niccolo est invité à jouer non plus dans une église, mais au théâtre San Agostino. La critique ne tarit pas d'éloges, soulignant sa virtuosité invraisemblable, mais aussi ce violon qui chante et met en transe le public saisi d'émotions indescriptibles. Un témoin se souviendra. C'était si beau que c'en était insoutenable. Désormais lancé à Gênes, Niccolo doit à présent conquérir le monde. Et cela devient un casse-tête pour M. Paganini. Il est hors de question d'abandonner un enfant de 12 ans à lui-même et de le laisser partir tout seul. Comment faire quand on n'a pas le sou ? Compter sur la générosité du marquis, certes, mais sa bonté n'irait pas jusqu'à faire vivre toute une famille restée au bercail et à payer le voyage et l'hébergement du père. L'idée lui vient d'organiser un concert où le bambino pourrait gagner pas mal d'argent. La soirée, location de salle, rétribution de l'orchestre, publicité, sera entièrement financée par le marquis, puis annoncée dans la presse sous une forme assez peu courante. Voici. Ayant décidé d'aller à Parme pour perfectionner son art et ne pouvant faire face aux nombreux frais qui en découlent, Niccolò Paganini a pensé à cette solution pour se donner le courage d'inviter ses compatriotes à participer selon leurs possibilités à cette soirée qu'il espère réussie grâce à eux. Ce sera un triomphe musical, bien sûr, mais aussi pécuniaire. Et le 4 septembre, les Paganini, père et fils, accompagnés de leurs bienfaiteurs, s'embarquent pour Parme. À peine arrivé, Niccolò, escorté de son père et du marquis di Negro, se rend chez Alessandro Rolla, premier violon de l'orchestre de Parme et professeur très réputé. Des années plus tard, Paganini fera lui-même le récit de cette première entrevue. « En arrivant chez Rolla, nous le trouvâmes malade et alité. Sa femme nous conduisit dans une pièce voisine de sa chambre afin d'avoir le temps de se concerter avec son mari qui ne paraissait pas disposé à nous recevoir. Ayant aperçu sur la table de la chambre un violon et le dernier concerto de Rolla, je m'emparais de l'instrument et jouais à première vue. Étonné, le compositeur s'informa du nom du virtuose qu'il venait d'entendre. Lorsqu'il apprit que ce virtuose n'était qu'un jeune garçon, il n'en voulut rien croire jusqu'à ce qu'il s'en fût assuré par lui-même. Il déclara alors qu'il n'avait plus rien à m'apprendre et me conseilla d'aller demander à Paër des leçons de composition. Rolla, démuni devant l'évidence du génie, envoie donc le petit bonhomme chez Paër, qui, assure-t-il, pourra beaucoup lui apporter dans l'art de la composition. Oui, mais voilà, le maestro, débordé en période de créativité intense, n'accepte plus d'élèves. « Allez voir Ghiretti », conseille-t-il. Paganini nous raconte. Ghiretti me combla de soins et de leçons de composition, et je composais sous ses yeux une grande quantité de musique instrumentale. Vers ce même temps, j'exécutais deux de mes concertos de violon dans un concert du Grand Théâtre, après avoir joué dans la maison de plaisance des souverains à Colorne et à Salla, qui me récompensèrent magnifiquement. Le propriétaire d'un violon de Guarnierius me dit: « Si vous jouez à première vue ce concerto de violon, je vous donnerai cet instrument. » Et je le gagnais. C'est à cette époque que notre jeune héros découvre l'arte de nuovo modulazione de Locatelli, œuvre publiée en 1733 et comprenant 24 caprices pour violon seul. C'est le déclic. Dès lors, le garçon va cesser toute leçon avec un professeur et commence l'élaboration de ses propres caprices, dont le travail s'échelonnera sur plus de 10 années. 1797, Niccolò n'a pas 15 ans et déjà il s'est trouvé, atteignant la plénitude de ses moyens techniques, se jouant de tous les tours de force, accomplissant prouesse sur prouesse. Son jeu inouï galvanise les foules. Un critique relate. Paganini a exécuté avec une facilité et une grâce déconcertante les choses les plus difficiles, dominant avec la même aisance des difficultés insurmontables pour tout autre que lui. Le jeune artiste a tiré de son violon tout ce qu'il existe de plus suave et de plus inaccessible dans le temple de la musique, que son violon ait quatre cordes ou plus qu'une seule, peu importe, son archet est magique. Paganini est peut-être un prodige, Anjou démon, mais plus certainement le génie de la musique. Et peu à peu, le mythe se construit. Savez-vous, répète-t-on partout, que le garçon n'a pas besoin de travailler, qu'il se contente uniquement des répétitions et des concerts? Certes, personne ne l'a jamais entendu faire une gamme ni un exercice, et pour cause, l'adolescent prend d'infinies précautions afin que nul ne puisse le surprendre dans son labeur acharné, incessant, épuisant. Il a décidé, sa cuisine n'appartient qu'à lui seul, et l'art doit rester un mystère. Ainsi, décrète-t-il, on entendra le son de mon violon uniquement sur les estrades de concert. Son organisme, soumis à une tension nerveuse excessive, s'affaiblit de jour en jour et bientôt il attrape une pleurésie, soignée à grands coups de saignée et dont il réchappera miraculeusement.
Cette belle biographie, surprenante d'ailleurs.
Mais oui, beaucoup d'éléments qui appartiennent à Paganini lui-même hein, parce qu'il a écrit son journal. Donc,
c'est ça, vous avez pu retrouver.
J'ai repris beaucoup de...
Magnifique.
Beaucoup de choses.
Merci Eric.
Merci Didier. Merci Mélisande, comme toujours. Beaucoup de t'appels pour vous cet après-midi.
Merci.
Et donc,
merci.
Chers auditeurs, eh bien, dans 4 semaines, nous nous retrouverons pour un autre anniversaire. Merci.
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 Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Musique et de la Culture dirigé par Didier Rochard assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 14 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.